Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Cascade.
Rouge, histoire d'une couleur, de Michel Pastoureau, lu par Jean-Christophe Acquaviva. Une production Cascade. Le taureau devient furieux seulement si on lui présente une étoffe rouge. Le philosophe, en revanche, dès qu'on lui parle de couleur, se met en rage. Goethe. Introduction. Pour les sciences humaines, parler de couleur rouge est presque un pléonasme. Le rouge est la couleur archétypale. La première que l'homme a maîtrisée, fabriquée, reproduite, déclinée en différentes nuances, d'abord en peinture, plus tard en teinture. Cela lui a donné, pour de longs millénaires, la primauté sur toutes les autres couleurs. Cela explique aussi pourquoi, dans de nombreuses langues, un même mot peut signifier tout ensemble rouge, beau et coloré. Même si aujourd'hui, en Occident, le bleu est de loin la couleur préférée, même si dans notre vie quotidienne, la place du rouge est devenue discrète, du moins si on la compare à celle qui fut la sienne dans l'Antiquité gréco-romaine ou au Moyen-Âge, le rouge reste la couleur la plus forte, la plus remarquable, la plus riche d'horizons poétiques, oniriques ou symboliques. J'ai tenté dans les chapitres qui suivent de retracer sa longue histoire dans les sociétés européennes, du paléolithique jusqu'à nos jours. Cela n'a pas été une tâche aisée, tant sont nombreux les domaines où le rouge intervient et les problèmes que soulève son étude. L'historien, comme le linguiste, comme le sociologue ou l'anthropologue, a toujours beaucoup plus à dire sur le rouge que sur n'importe quelle autre couleur. Le rouge est un océan. Pour ne pas s'y noyer, pour que cet ouvrage garde des dimensions raisonnables, pour qu'il puisse se comparer à ceux qui l'ont précédé, il m'a fallu, à regret, laisser de côté certains dossiers, en raccourcir d'autres, passer plus rapidement sur telle période, éluder telle question, donner priorité à quelques fils conducteurs, le lexique, le vêtement, l'art, les savoirs, les symboles. Permettant de se repérer dans un labyrinthe chromatique particulièrement fécond. Le présent livre est le quatrième d'une série en cours, commencé avec Bleu, Histoire d'une couleur, 2000, suivi de Noir, Histoire d'une couleur, 2008, puis de Vert, Histoire d'une couleur, 2013. Tous publiés chez le même éditeur. Un cinquième devrait suivre, consacré au jaune. Comme pour les livres déjà parus, le plan de celui-ci est chronologique. Il s'agit bien d'une histoire de la couleur rouge, pas d'une encyclopédie du rouge, encore moins d'une étude de celui-ci dans le seul monde contemporain. Il s'agit bien d'un livre d'histoire, qui étudie le rouge dans la longue durée et sous tous ses aspects, du lexique au symbole, en passant par la vie quotidienne, les pratiques sociales, les savoirs scientifiques, les applications techniques, les morales religieuses et les créations artistiques. Trop souvent, les histoires de la couleur, à dire vrai peu nombreuses, se limitent aux périodes les plus récentes ou aux seuls enjeux picturaux, ce qui est fortement réducteur. L'histoire de la peinture est une chose, l'histoire des couleurs en est une autre, bien plus vaste. Comme les trois ouvrages précédents, celui-ci n'est monographique qu'en apparence. Une couleur ne vient jamais seule. Elle ne prend son sens, elle ne fonctionne pleinement, du point de vue social, artistique ou symbolique, que pour autant qu'elle est associée ou opposée à une ou plusieurs autres couleurs. Par là même, il est impossible de l'envisager isolément. Parler du rouge, c'est nécessairement parler du bleu, du jaune, du vert, et plus encore du blanc et du noir. Ces quatre premiers ouvrages, et celui qui devrait suivre, constituent les pierres d'un édifice dont la construction m'occupe depuis près d'un demi-siècle, L'histoire des couleurs dans les sociétés européennes, de l'Antiquité romaine jusqu'au XVIIIe siècle. Même si, comme on le verra par la suite, je déborde considérablement en amont et en aval de ces deux périodes. C'est dans cette tranche chronologique, déjà très large, que se situe l'essentiel de mes recherches. De même, je limite celle-ci aux sociétés européennes, car pour moi, les problèmes de la couleur sont d'abord des problèmes de société. Or, l'historien que je suis n'est pas compétent pour parler de la planète entière et n'a pas goût à compiler de deuxième ou troisième main des travaux conduits par d'autres chercheurs sur des cultures non européennes. Pour ne pas écrire de sottises, pour ne pas piller ou recopier les livres des autres, je me limite à ce que je connais et qui a fait l'objet de mes séminaires à l'École pratique des hautes études et à l'École des hautes études en sciences sociales pendant plus de 30 ans. Construire une histoire des couleurs, même en se limitant à l'Europe, n'est pas facile. C'est même une tâche particulièrement ardue, à laquelle les historiens, les archéologues et les historiens de l'art, y compris ceux de la peinture, ont refusé de s'atteler jusqu'à des dates récentes. Les difficultés, il est vrai, sont multiples. Il vaut la peine de les rappeler en introduction au présent livre, car elles font pleinement partie du sujet et aident à comprendre les lacunes de nos connaissances. Ici, plus qu'ailleurs, il n'y a pas vraiment de frontière entre l'histoire et l'historiographie. Ces difficultés peuvent être regroupées en trois catégories. Les premières difficultés sont documentaires. Nous voyons les objets, les images, les œuvres d'art et les monuments que les siècles passés nous ont laissés. Non pas dans leur couleur d'origine, mais telles que le temps les a faites. Or, l'écart est parfois immense entre l'état premier et l'état actuel. Que faire? Faut-il restaurer, retrouver à tout prix ces prétendues couleurs d'origine? Ou bien faut-il admettre que le travail du temps est un document d'histoire que l'historien doit accepter comme tel? Nous voyons en outre ces couleurs dans des conditions de lumière très différentes des éclairages qu'ont connus les sociétés qui nous ont précédés. La torche, la lampe à huile, la chandelle, la bougie, le gaz produisent des lumières qui ne sont pas celles que fournit l'électricité. C'est une évidence. Mais qui parmi nous s'en souvient lorsqu'il visite un musée ou une exposition? Et quel historien en tient compte dans ses travaux? Enfin, pendant des décennies, les chercheurs ont pris l'habitude d'étudier les objets, les œuvres d'art et les monuments au moyen de reproductions en noir et blanc. La gravure d'abord, la photographie ensuite. Si bien qu'au fil du temps, leur mode de pensée et de sensibilité semble être devenu, eux aussi, en noir et blanc. Habitués à travailler à partir de documents, de livres et d'iconothèques où dominaient largement les images en noir et blanc, historiens et archéologues ont pensé et étudié le passé comme un monde d'où la couleur était absente. Les deuxièmes difficultés sont méthodologiques. L'historien est souvent désemparé lorsqu'il tente de comprendre le statut ou le fonctionnement de la couleur dans une image ou sur une œuvre d'art. Tous les problèmes, matériels, techniques, chimiques, iconographiques, idéologiques, symboliques, se posent en même temps. Comment les serrer? Comment conduire une analyse? Quelles questions poser et dans quel ordre? À ce jour, aucun chercheur, aucune équipe n'a encore proposé des méthodes pertinentes qui aideraient l'ensemble de la communauté savante à mieux étudier les problèmes de la couleur. C'est pourquoi, devant le foisonnement des interrogations et la multitude des enjeux, chaque chercheur, moi le premier sans doute, a tendance à ne retenir que ce qui l'arrange par rapport à la démonstration qu'il est en train de conduire, et, inversement, à laisser de côté tout ce qui le dérange. C'est évidemment une mauvaise façon de travailler. Les troisièmes difficultés sont épistémologiques. Il est impossible de projeter telles quelles dans le passé, sans précaution aucune, nos définitions, nos classifications et nos conceptions actuelles de la couleur. ce n'étaient pas celles des sociétés qui nous ont précédées, et ce ne seront pas celles des sociétés qui vont nous suivre. D'autant que ce qui est vrai du savoir l'est aussi de la perception. L'œil antique et médiéval, par exemple, ne perçoit pas les couleurs ni les contrastes comme l'œil du XXIe siècle. Quelle que soit l'époque concernée, le regard est toujours culturel. Par là même, le danger de l'anachronisme semble guetter l'historien à chaque coin de document, surtout lorsqu'il s'agit du spectre, inconnu avant la fin du XVIIe siècle, de la théorie des primaires et des complémentaires, dont les sciences humaines ne peuvent rien faire, de la distinction entre couleurs chaudes et couleurs froides, pure convention, de la loi du contraste simultané ou des prétendus effets physiologiques ou psychologiques des couleurs. Nos connaissances, nos sensibilités, nos vérités d'aujourd'hui n'étaient pas celles d'hier et ne seront plus celles de demain. L'ensemble de ces difficultés met en valeur le caractère étroitement culturel des questions posées par la couleur. Pour l'historien, celle-ci se définit d'abord comme un fait de société et non pas comme une matière, ni comme une composante de la lumière, encore moins comme une sensation. C'est la société qui fait la couleur, qui lui donne son vocabulaire et ses définitions, qui construit ses codes et ses valeurs, qui organise ses pratiques et détermine ses enjeux. C'est pourquoi toute histoire des couleurs doit d'abord être une histoire sociale. Faute de l'admettre, on verserait dans un neurobiologisme réducteur ou dans un scientisme stérile. Pour bâtir cette histoire, le travail du chercheur est double. D'une part, il lui faut cerner ce qu'a pu être l'univers des couleurs dans les sociétés du passé, en prenant en compte toutes les composantes de cet univers. Le lexique et les faits de langue, la chimie des pigments, les techniques de teinture, les systèmes vestimentaires et les codes qui les accompagnent, la place de la couleur dans la vie quotidienne, les règlements émanant des autorités, les morales des hommes d'église, les spéculations des hommes de science, les créations des hommes de l'art. Les terrains d'enquête et de réflexion ne manquent pas et posent à l'historien des questions complexes. D'autre part, dans la diachronie, en se limitant à une ère culturelle donnée, celui-ci doit étudier les mutations, les disparitions, les innovations ou les fusions qui affectent tous les aspects de la couleur historiquement observables. Dans cette double démarche, tous les documents doivent être interrogés. La couleur est par essence un terrain transdocumentaire et transdisciplinaire. Mais certains terrains se révèlent à l'usage plus fructueux que d'autres. En premier lieu, le vocabulaire. L'histoire des mots apporte toujours à notre connaissance du passé des informations nombreuses, originales et pertinentes. Concernant la couleur, cette histoire souligne combien dans toute société, la fonction première de celle-ci est taxinomique. Classer, associer, opposer, hiérarchiser. En second lieu, le domaine du textile, de la teinture, du vêtement et du paraître. C'est probablement là que les questions chimiques et techniques se mêlent le plus étroitement aux problèmes économiques, sociaux et symboliques. Le costume constitue le premier code de la couleur institué par la vie en société. Lexique, étoffe, vêtements. En matière de couleur, les poètes et les teinturiers ont au moins autant à nous apprendre que les peintres, les chimistes ou les physiciens. La longue histoire de la couleur rouge dans les sociétés occidentales est à cet égard exemplaire.